Les Canuts, troisième partie, chapitre 16. Depuis trois semaines, le père Jacquemin recommençait à mener au champ les moutons de la ferme. Pendant que ses bêtes tondaient l'herbe naissante, lui, du bout de son bâton, recueillait du bois mort et des plantes sèches dont il faisait des tas. Quand la brise soufflait, quand les nuages cachaient le soleil, il mettait le feu à ses débris pour se réchauffer. Dans l'après-midi du 5 avril, il avait conduit le troupeau dans une pièce de terre en friche située derrière le fenil. Une profonde quiétude régnait sur la campagne encore engourdie dans un hiver tardif. Le ciel, marbré de nuages gris, laissait voir par d'étroites déchirures des coins d'azur froid. Une bise aigre couchait au ras du sol les herbes sèches des friches. Laissant brouter ses bêtes, le vieux s'en était allé par les champs voisins, le dos courbé, les bras tendus vers la terre, et avait fait sa provision. Des fougères, des genêts arrachés dans la lande, des branches ramassées le long du chemin. Il était revenu avec son fagot, l'avait jeté à la place habituelle, marquée par un peu de cendre, et l'avait allumé. Assis sur une pierre devant le feu flambant, le bonnet de coton enfoncé sur les oreilles, il poussait dans le brasier, du bout de son bâton, les plantes que la flamme épargnait. La face béate, le cerveau vide, il regardait tantôt la fumée chassée par le vent, tantôt les moutons broutant à quelques pas de là, serrés les uns contre les autres. Quand la fournache marcha à son gré, il tira de sa poche un gros croûton de pain bis avec son couteau et se mit à dévorer. Bientôt, le bélier, puis deux ou trois moutons, puis le troupeau tout entier, accoururent bel an pour quêter un morceau. Une vieille brebis familière cherchait à fourrer le nez dans sa poche. Lui, bonnement, distribuait son pain. Mais les bêtes gourmandes devenaient entreprenantes et l'enserraient de toutes parts. Pour avoir la paix, il les dispersa à coups de gaule et les renvoya brouter. Il finit de manger. Puis il attisa le feu mourant et y jeta une nouvelle brassée de bois. La flamme s'aviva avec un crépitement. Les mains tendues vers le brasier, le vieux s'abandonnait, dans cette bonne chaleur, à une douce somnolence. Tout à coup, dans la tranquillité de la campagne, des bruits lointains s'entendirent du côté de Lyon. D'abord, des coups de feu isolés, puis une fusillade continue. Le bélier de tête, inquiet, se mit à gratter la terre. Lâchant son bâton, Jacquemin, surpris, écouta. Un coup de canon retentit. Le grondement emplissait l'air et arrivait si distinct qu'il semblait avoir été tiré à une petite distance. Brusquement, le vieux se leva. Ses traits se contractèrent. Un coin du voile qui lui cachait le passé se déchira. Ces bruits étranges troublaient son cerveau d'idiot, réveillaient dans sa mémoire obscurcie le souvenir d'événements oubliés, d'images sanglantes, de visions lugubres. Son esprit halluciné, il revoyait les barricades des journées de novembre avec le drapeau noir claquant au vent. Il revoyait la fumée des incendies. Il entendait les cris des combattants. Et à chaque coup de canon, il lui semblait voir tomber par dizaines des morts et des blessés. Dans sa pauvre tête malade, ce fut une commotion atroce. Il était pris d'une folie furieuse. Un cri rauque sortit de son gosier. Les moutons, épouvantés, s'enfuirent. Avec rage, il arracha d'un buisson un genévrier sec, chargé de ses fruits, et l'approcha de la fournache. La flamme, rapide, s'éleva, dévorant les aiguilles et faisant éclater les baies. Les yeux hagards, brandissant cette torche ardente, Jacquemin se précipita vers le fenil et y lança l'arbuste enflammé. Le fourrage prit feu. Bientôt, le bâtiment tout entier fut la proie des flammes. Des tourbillons de fumée, des gerbes d'étincelles montaient vers le ciel. À quelques pas du brasier, Jacquemin contemplait son œuvre. Les flammes rouges, jaillissant par les ouvertures, les murs craquant à la chaleur, les pierres se calcinant. Ce spectacle l'emplissait d'une joie farouche. Il croyait assouvir une vengeance contre un ennemi vague qui l'avait longtemps fait souffrir. Il agitait les bras avec des gestes désordonnés. Des cris sauvages s'échappaient de sa bouche. Et les flammes, perçant la toiture, dévorant la large porte, grandissaient en gerbes énormes et, au souffle du vent, se tordaient en longues spirales. Ni Jean Barou, ni sa femme n'étaient chez eux. Ils étaient allés à Saint-André mener une vache au vétérinaire. Mais l'incendie s'apercevait de loin. L'alarme fut bientôt donnée à Limoneste.
« Au feu ! Au feu !»
En peu d'instants, le village fut sans dessus-dessous. Le marguillier courut au clocher sonner le tocsin. Le tambour de ville, parcourant le bourg, assembla en hâte les pompiers. De toutes parts, des cris s'élevaient.
« Au feu ! Au feu ! À la grange à Barou !»
Toutes ces rumeurs arrivaient à Jacquemin, lui rappelant des souvenirs de l'insurrection, achevant d'affoler sa raison.
« Au feu ! Au feu !»
Déjà, au détour du chemin, brillaient les casques des pompiers qui accouraient au pas de course, traînant la pompe. Lui, dans son hallucination, revit les dragons de novembre chargeant les insurgés. Terrifié, il cherchait des yeux un refuge. Les pompiers n'étaient plus qu'à une demi-portée de fusil.
« Marius ! »
appela-t-il d'une voix désespérée.
« Marius ! »
Et se précipitant par la porte béante, il se jeta tête baissée dans l'énorme fournaise. Ce fut un cri d'horreur. Les pompiers, les paysans, les gens accourus entourèrent le fenil en flammes qui projetait une chaleur de four. Quelques hommes dévoués proposaient de s'envelopper de draps mouillés et d'essayer un sauvetage. Mais on les dissuada. C'eût été une témérité inutile. Le pauvre fou avait sans doute déjà cessé de vivre. Alors, on ne songea plus qu'à noyer l'incendie pour empêcher les flammèches d'atteindre la ferme. Les pompiers installèrent la pompe près de l'abreuvoir et commencèrent à arroser la fournaise.
« Au feu ! Au feu !»
De tous côtés, on entendait ce cri d'alarme. Et les gens accouraient du village, des fermes voisines. Les femmes se lamentaient, les hommes gueulaient.
« Pas tant de bruit, les femmes ! À la besogne, donc !»
De l'abreuvoir au fenil, une longue chaîne s'était formée. On avait apporté des seaux, des bennes à vendange, qu'on se repassait de main en main, plein à l'aller, vide au retour. Et la pompe fonctionnait, inondait les poutres rougies, les murs calcinés contre lesquels l'eau se changeait en vapeur. Tout à coup, les charpentes carbonisées cédèrent et entraînèrent un pan de mur qui croula avec un bruit de tonnerre, soulevant des nuages d'étincelles et de fumée. Les pompes de Saint-Didier et de Chasselet venaient d'arriver au galop. On les installa à la hâte, l'une près du puits, l'autre près de l'abreuvoir, et on se mit à noyer les décombres. L'incendie, semblant dormir, vomissait des tourbillons de vapeur. Puis le feu qui couvait, rencontrant des débris incomplètement brûlés, se réveillait subitement. Une gerbe s'élevait et, de proche en proche, tout recommençait à flamber. Au loin, le canon tonnait encore. Cependant, le jour baissait. De grandes ombres enveloppées de brume descendaient sur les combes boisées. Dans les vapeurs humides qui rasaient la campagne, traînait la fumée grise de l'incendie. Par précaution, les pompiers, d'intervalle en intervalle, arrosait encore la masse noire des murs effondrés. Dans la nuit, cette ruine informe, souillée de cendres et de boue, semblait une bête mauvaise, anhélante et vaincue. Tout à coup, sur le chemin de la ferme, Jean Barou parut, tirant après lui sa vache. Derrière une gaule en main, la mère Barou accourait. En traversant Limoneste, ils avaient tout appris. Avec des gestes fous et d'une voix étranglée, Barou hurlait.
« Oh non d'égout! Crénon d'égout! Ma grenzac à brûlot! Et louperzacmin qui est dans l'oufeu, non d'égout !»
Il se frappait la tête à coups de poing, sans lâcher la corde par laquelle il retenait sa vache, qui meuglait lugubrement. Hors d'haleine, tremblant de tous ses membres, la vieille s'était avancée au milieu des femmes et, de sa voix cassée, criait de toutes ses forces.
« Ah, mon Dieu! Mon Dieu !»
Leur besogne faite, les pompiers étaient partis. On entendait les pompes de Saint-Didier et de Chasselet rouler sur la grande route. Et, comme les paysans, atterrés, regagnaient lentement le village, derrière eux, dans la nuit devenue silencieuse, la voix de la mère Barou, obsédante, exhalait toujours la même plainte.
« Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu !»